Si vous sortez un soir, quand il fait beau, vous installez sur les marches devant votre maison, vous regardez le ciel, vous admirez le nombre incroyable d'étoiles qu'on peut voir par un soir de beau temps, et vous allez voir en travers du ciel cette ligne plus ou moins lumineuse qu'on appelle la Voie lactée, d'après la mythologie grecque. La Voie lactée, c'est un nombre incalculable d'étoiles qui sont en forme de disque, un disque géant. Ce disque qu'on appelle la Voie lactée, ce disque d'étoiles, mesure environ 100 000 années-lumière. Alors je vous rappelle, une année-lumière, c'est la distance que la lumière va parcourir en une année, sachant qu'elle avance à 300 000 km à la seconde environ. Ce disque mesure 100 000 années-lumière de diamètre. Difficile à imaginer, hein? Alors, on va réduire les choses à une échelle un petit peu plus simple. Et on va dire, voilà, cette Voie lactée, ce disque de 100 000 années-lumière, on va dire qu'il fait 130 km de diamètre. 130 km, ça, nous pouvons imaginer ce que c'est. La Voie lactée fait 130 km de diamètre. Eh bien, pour garder la même mesure, notre système solaire, dans cette Voie lactée de, disons, 130 km de large, fait tout juste 2 mm. Et la Terre là-dedans, on la voit à peine. Et nous-mêmes, sur la Terre, véritablement invisibles dans l'immensité de la création de Dieu. C'est une manière pour nous de nous replacer dans cet univers immense de la création de Dieu, de nous replacer devant la toute-puissance du Créateur. Et sort spontanément de notre cœur cette phrase du psaume 8, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En effet, comment célébrer mieux la grandeur de la puissance créatrice de Dieu que dans l'observation du sabbat qu'il nous a donné d'ailleurs pour cela. Le sabbat ne peut pas être observé par les évolutionnistes, par ces gens qui ont absolument voulu mettre Dieu hors de leur vie et hors du monde. Comme vous savez, cette année, on a célébré le 200e anniversaire de la naissance de Darwin ou bien les 150 ans de la publication de son livre « L'origine des espèces ». Cet homme a contribué par son livre à poser un pilier solide sur lequel se sont appuyés tous ceux qui avaient l'intention de retirer Dieu à tout prix de leur existence, de l'histoire de l'humanité. Le monde d'ailleurs n'a pas peur des incohérences que cela produit. Darwin, à cause de sa contribution, a été honoré et on l'a enterré dans l'abbaye de Westminster, à Londres, à quelques pas même d'Isaac Newton, par exemple, qui lui-même a étudié les prophéties et en a donné une explication très biblique, très claire sur la fin des temps. Curieusement, Darwin, qui est un des piliers de l'athéisme, un de ceux qui a contribué le plus, peut-être, à chasser Dieu de la vie des hommes, va être enterré dans une église chrétienne. On va reconnaître sa contribution à la connaissance de l'humanité. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs que le monde d'aujourd'hui ne veuille pas observer le sabbat, parce que le monde d'aujourd'hui finalement a ce désir d'expulser Dieu de sa vie, de l'en retirer entièrement pour que l'être humain et la société puissent se débrouiller toute seule. On n'a pas besoin de Dieu. Et on n'a pas non plus besoin de sa loi par conséquent. Et justement, au milieu de cette loi, se trouve cette invitation à observer le sabbat comme jour particulier. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, où se trouve le texte de cette loi des 10 commandements, se trouve aussi le texte dans lequel le jour de sabbat est présenté comme le 4e commandement. Mais dans ce passage se trouve la raison pour laquelle nous sommes invités à observer le sabbat. Cette raison est indiquée au verset 11. Exode 20, verset 11, il est dit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » La raison qui nous est donnée dans ce texte pour laquelle nous sommes invités à observer le sabbat, c'est parce que Dieu est le Créateur, le Tout-Puissant qui a créé non seulement nos personnes, mais l'univers entier dont la mesure même nous échappe. Maintenant, ce texte du quatrième commandement se trouve aussi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5. Deutéronome, chapitre 5, reprend les 10 commandements et le quatrième commandement y est présent également. Là aussi, une raison nous est donnée pour laquelle nous sommes invités à observer le quatrième commandement. Deutéronome, chapitre 5, nous lirons à partir du verset 15. Il est écrit ceci. « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Vous avez remarqué que pour ce même commandement, le quatrième commandement, l'observation du sabbat, dans le livre de l'Exode, il nous est dit « C'est parce que Dieu est ton Créateur. » Mais dans le Deutéronome, il nous est dit « C'est parce que Dieu est ton Sauveur. » C'est lui qui t'a délivré de l'esclavage du péché symbolisé ici par l'Égypte. Ce sont là les deux piliers sur lesquels repose l'observation du sabbat. Parce que Dieu est notre Créateur et parce qu'il est aussi notre Sauveur. Ce thème va traverser toutes les Écritures. Ce sont les deux piliers que l'on retrouve constamment en rapport avec l'observation du sabbat. On va le retrouver jusque dans l'Apocalypse au chapitre 14, au verset 7, où le premier ange qui est présenté ici parle exactement de la même manière. Vous connaissez ce passage, Apocalypse chapitre 14, au verset 7. Il est écrit ceci. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Comment peut-on adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, si ce n'est en l'adorant de la manière qu'il nous a demandé de le faire, par l'observation du jour du sabbat? Et puis, dans ce même texte, il nous est dit, nous sommes invités à lui donner gloire, à l'adorer, parce que l'heure de son jugement est venue. Mais l'heure du jugement, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est le salut. C'est la bonne nouvelle. Le jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est le moment où enfin, devant l'univers entier, nous serons réhabilités en tant que fils et filles de Dieu pour l'éternité. Le sabbat, lié à la célébration de la création et aussi à la reconnaissance infinie que nous devons à notre Sauveur qui nous a délivrés du péché. Devant ce Sauveur et devant ce Créateur, nous sommes invités à adorer. Le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, est entier consacré à l'adoration. Et il n'y a là que deux adorations possibles, l'adoration de l'agneau ou l'adoration de la bête. Il n'y a pas d'autre choix. Ainsi, dans cette adoration, il n'y a pas de demande. C'est en fait nous qui venons nous donner à lui. Regardez dans le psaume 92, ce psaume d'ailleurs consacré au sabbat, comment le psalmiste s'exprime. Psaume 92, Psaume du sabbat au verset 5, il est dit ceci. « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, l'insensé n'y prend point garde. » En effet, le monde aujourd'hui n'y prend point garde. Le monde d'aujourd'hui prend pour acquis cette création dont on use et abuse largement. Mais celui qui est en Jésus-Christ tourne ses regards vers Dieu. « Tu me réjouis par tes œuvres, Éternel. » Et l'adorateur n'a rien à demander. L'adorateur donne et se donne à Dieu en reconnaissance pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Ce psaume 92, qui est un cantique pour le sabbat, est en même temps un cantique d'adoration, rappelant que le Dieu Créateur est celui vers qui nous tournons nos pensées, nos regards, dans ce jour particulier qui lui est consacré. Dans ce cadre de l'adoration, il est un autre psaume que j'aimerais regarder avec vous ce matin et qui me paraît intéressant, c'est le psaume 104. L'auteur du psaume 104 a repris en réalité le texte de la Genèse pour composer son cantique. Et j'aimerais ce matin reprendre avec vous le parallèle entre le texte de la Genèse et le texte de ce psaume 104. qui est une expression d'adoration, de reconnaissance, de don de soi à Dieu pour ce qu'il est, le Créateur. Une adoration qui est l'état d'esprit de tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Créateur et comme leur Sauveur. Le psaume 104 commence par une exclamation que nous retrouvons d'ailleurs en conclusion. « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. » Ce sont exactement les paroles que nous retrouvons dans le dernier verset de ce psaume, où il est dit « Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. » L'introduction fait écho à la conclusion que nous retrouvons dans ce psaume. Et puis, nous reprenons la lecture au verset 1. Verset 1, il est dit « Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. » Maintenant, souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, nous est rapportée la création du monde jour par jour. Et le premier jour est consacré à la lumière, où Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Effectivement, le psaume 104 commence en évoquant la lumière et la splendeur de Dieu. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Maintenant, dans le livre de la Genèse, toujours au chapitre 1, vous vous souvenez que le deuxième jour était consacré à la création du ciel, à cette étendue qui était placée autour de la terre et que le texte appelle le ciel. Regardez maintenant dans le psaume 104, au milieu du verset 2, on reprend la lecture où il est dit « Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. » À nouveau, nous retrouvons ici le thème du ciel, encore directement avec Dieu comme étant sa demeure, là où il est présent. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, le troisième jour nous est présenté. Et vous vous souvenez que durant ce troisième jour, Dieu va séparer les eaux et va faire surgir le sec. Et le texte nous dit, on va appeler l'amas des eaux mer, on va appeler la terre sèche, la terre. Et sur cette terre, Dieu va faire pousser les arbres, les plantes, la végétation. Il va couvrir la terre d'une abondance de végétation. Maintenant, regardons dans le psaume 104 au verset 5 ce qui est écrit en rapport avec le troisième jour. Et le texte du psaume 104 par rapport au troisième jour est plus long que tous les autres. Au verset 5, il est dit « Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Les montagnes se sont élevées, les vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. » Et ainsi, le psalmiste présente ici la création de cette terre avec son relief, avec la mer d'un côté, la terre de l'autre, les montagnes, les collines, les vallées. Et un petit peu plus loin, il dit au verset 14, toujours en rapport avec la création du troisième jour, il fait germer l'herbe pour le bétail et la plante pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. » Là encore, dans ce psaume, le psalmiste reprend ce thème du troisième jour, où Dieu va donner à la terre sa forme et sa couleur, ce relief et sa beauté. Dans le livre de la Genèse, il nous est rapporté ce que Dieu fait au quatrième jour. Dans le quatrième jour, Dieu va créer les luminaires, nous est-il dit, pour marquer les temps et les époques. Dans le ciel, Dieu va placer le soleil, la lune, les étoiles, sans nombre. Et c'est ainsi que le temps va prendre une dimension particulière. Regardez maintenant dans le psaume 104 ce qu'il est dit au verset 19. « Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et ils se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. » Des luminaires pour marquer les temps, non pas seulement les temps prophétiques, non pas seulement les temps dans le plan de Dieu, mais aussi les temps de notre vie, les mouvements de notre vie, les temps de repos par lesquels Dieu nous propose de commencer notre journée, et puis le temps de travail par lequel il nous propose de la continuer. Car vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, chaque jour est présenté comme étant, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier, deuxième jour. Dieu nous donne dans le temps d'abord le repos, et puis ensuite le travail, comme il le fait d'ailleurs pour le plan du salut. Il nous propose d'abord de le recevoir et de nous reposer en lui, d'accepter son salut et de travailler ensuite avec lui. Ce sera d'ailleurs le seul moyen par lequel notre travail peut être acceptable à ses yeux. Le travail de celui qui a accepté d'être sauvé d'abord, sauvé par Jésus-Christ et non par ses œuvres. Le cinquième jour dans le livre de la Genèse nous est présenté comme le jour durant lequel Dieu va placer les oiseaux dans le ciel, les poissons et les animaux marins dans la mer. Regardez dans le psaume 104 ce qui est dit, par exemple au verset 24. « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens, voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. » Là encore, le psalmiste reprend ce thème du cinquième jour, de ce que Dieu a placé dans la mer et dans les cieux, les êtres vivants qu'il y a mis. Et puis, bien sûr, le sixième jour. Le sixième jour nous est présenté dans la Genèse comme le jour où Dieu va créer le reste des animaux terrestres, et puis, bien sûr, l'homme et la femme. Lisons dans le psaume 104 à partir du verset 27. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et tu la recueilles. Tu ouvres ta main, ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent. Ils retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Les animaux sont là, vivants. Et le vocabulaire qui est employé ici, vers la fin de cette section, est exactement le vocabulaire qui est employé dans le livre de la Genèse en rapport avec la création de l'homme. Le souffle, l'esprit et la poussière. Poussière dont il a fait le corps, esprit qu'il a soufflé dans les narines de l'homme et qui est devenu, selon le texte de la Genèse, une âme vivante. Là encore, dans le sixième jour, le psalmiste a souligné la puissance créatrice de Dieu dans le monde pour donner vie à ces êtres qu'il crée. Et finalement à celui qu'il va créer à son image. À partir du verset 31 vient le septième jour. Dans la Genèse, il nous est présenté comme le jour de repos, jour de célébration de la puissance créatrice de Dieu. Et ici, dans le psaume 104, au verset 31, il est dit « Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. » Dans ce jour de sabbat, éclate la gloire de l'Éternel. Elle s'est manifestée tout au long de cette semaine de création. Lors du sabbat, la gloire de l'Éternel éclate dans toute sa grandeur. Là encore, le psaume 19 va nous aider à comprendre à quoi est attachée cette gloire de l'Éternel. Psaume 19, nous lirons le verset 2. Psaume 19, verset 2. Vous connaissez ce psaume de David où il est dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Où donc la gloire de Dieu est-elle manifestée? Par quoi donc la gloire de Dieu se manifeste-t-elle dans le monde? Elle se manifeste par sa création, par son pouvoir créateur, extraordinaire. Et vous avez remarqué dans le texte du psaume 104, il nous est dit, voilà, le Seigneur regarde la terre, elle tremble. Il touche les montagnes, elles sont fumantes. Dieu se manifeste, Dieu vient, Dieu descend. Et que se passe-t-il? Il y a dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, un passage qui reprend le même vocabulaire et qui nous replace dans un contexte bien particulier. Exode, chapitre 19. Nous lirons, si vous le voulez bien, à partir du verset 17. Exode, chapitre 19, verset 17, il est écrit ceci. « Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Dieu descend, Dieu se manifeste sur le mont Sinaï. Et le vocabulaire qui exprime sa présence est le même que celui que nous avons dans le psaume 104 lorsqu'il est question du sabbat. Parce que dans le chapitre suivant du livre de l'Exode, juste quelques versets plus loin, au chapitre 20, nous retrouvons précisément les 10 commandements, la loi que Dieu a donnée à son peuple, ce texte de l'alliance qu'il a contracté avec ce peuple. Ainsi, dans le sabbat, la gloire de Dieu se manifeste par sa création et aussi par sa loi, qui est le mode d'emploi qu'il a donné à l'homme qu'il a créé dans ce monde. Cette loi qui est caractéristique de l'observation du sabbat. C'est le moment où, justement, Dieu va s'approcher de l'homme pour lui donner le mode d'emploi de la vie qu'il a créée, ce mode d'emploi qui n'est pas destiné à conduire l'homme dans sa vie pendant 70, 80 ou 90 ans, mais la loi qui est destinée à faire vivre l'homme pour l'éternité. Le sabbat devient le symbole de ce pouvoir créateur et de ce pouvoir rédempteur de Dieu. Ainsi, le psaume 104 continue, verset 33, où le psalmiste dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre, que les méchants ne soient plus, mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. » Le psalmiste ici exprime sa louange, sa reconnaissance, finalement, son adoration devant le pouvoir créateur et rédempteur de Dieu, devant la loi parfaite du Créateur. Mais vous avez remarqué, il est dit ici que les pécheurs disparaissent de la terre. Il faut se rappeler qu'en réalité, Dieu, lorsqu'il crée, a en vue de donner à l'homme ce monde parfait, ce monde dans lequel il a placé l'être humain. En fait, Dieu a créé le monde non pas comme un objectif en soi, mais le monde dans lequel nous sommes a été créé pour y placer l'être humain, pour y placer ses enfants que nous sommes. C'est pour cela qu'il a créé le monde. Mais Dieu nous annonce qu'il veut aussi créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pour cela, il faudra que le mal disparaisse, que le péché disparaisse. Dieu a un plan. Lorsque nous adorons le Dieu créateur, en fait, nous sommes conduits très naturellement à adorer aussi le Dieu recréateur. Celui qui a la puissance d'éliminer le mal, le péché, la mort de ce monde pour rendre à ses enfants le monde sans péché qu'il avait l'intention de leur donner au départ. L'adoration du Dieu créateur, c'est aussi l'adoration du Dieu recréateur. Et le Nouveau Testament nous donne très clairement cette bienheureuse espérance. Regardez par exemple avec moi dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, ce que l'apôtre écrit au verset 11. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, au verset 11. Dans le contexte de la fin, l'apôtre écrit ceci, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Vous remarquez dans ce passage, il y a aussi la destruction du mal, une destruction totale et complète du mal, pour que enfin Dieu puisse recréer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, selon le plan original qu'il avait. Mais bien sûr, nous attendons avec impatience ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Mais la recréation de ce nouveau ciel, de cette nouvelle terre, est malgré tout conditionnel de la recréation en nous de l'image de Dieu. Nous avons été créés à son image. Et il faudra un miracle tout aussi grand que la création pour recréer en nous l'image de Dieu. Ainsi, si nous croyons que Dieu est vraiment le Créateur, si nous adorons Dieu pendant le jour du sabbat comme étant notre Créateur, si nous avons l'assurance que Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre par une puissance créatrice tout aussi forte que la première fois, Il faut que nous acceptions en même temps que Dieu a une puissance suffisamment grande pour recréer en nous son image et son caractère. En fait, accepter qu'il soit aussi notre recréateur. Mais dès maintenant, dans le livre du prophète Ézéchiel, le sabbat est présenté justement comme le signe que nous avons accepté la puissance recréatrice de Dieu. Regardez avec moi dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 20. Au verset 12, il est écrit ceci. « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Le sabbat est le signe par lequel nous reconnaissons que Dieu est non seulement notre Créateur, mais que nous le recevons aussi comme notre recréateur, c'est-à-dire celui qui nous change, celui qui nous sanctifie, celui qui nous transforme pour que nous